À Luchon, 94 FM.
Allez, on termine cette semaine ensemble en ce Présence Midi. J'espère que vous allez bien. Le beau temps est toujours et nous accompagne pour ce fin de mois d'avril et c'est un vrai bonheur. Au sommaire de ce magazine, ce Présence Midi, bien écoutez, dans quelques instants, on retrouvera la chronique verte de Benoît Guillard. Et aujourd'hui, nous allons prendre la direction d'Ibos à la rencontre de l'association qui s'appelle L'Être et qui accompagne des personnes en recherche d'emploi en s'appuyant sur les valeurs de la transition écologique. Et puis, la chronique coup de cœur en librairie avec cette semaine le frère Martin de l'abbaye de Tournaille. Il va nous présenter un ouvrage de Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde. C'est un regard original sur le pontificat du pape François à travers un voyage en Mongolie. La chronique solidaire de Dan Deslois, aujourd'hui focus sur un enjeu majeur de notre époque, l'extractivisme avec Claude Thiébaud du CCFD Terre Solidaire. Et puis, on va finir avec de jolis mots avec nos auteurs. Évasion littéraire dans les Pyrénées, c'est proposé par Catherine Albrecht. Et cette semaine, elle nous invite à voyager à travers les écrits de Hans Christian Andersen, inspiré donc par les beaux paysages pyrénéens. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, on va retrouver l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Pour cela, nous retrouvons Jenny Chib de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
La Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie alerte sur un ralentissement économique généralisé et une chute de la confiance des entreprises liée au conflit au Moyen-Orient. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières pèse sur l'activité. Ainsi, les marges sont au plus bas depuis 2 ans. En Haute-Garonne, la gendarmerie alerte sur une recrudescence d'arnaques aux faux policiers ciblant les seniors. Des escrocs se font passer pour des enquêteurs afin de soutirer de l'argent ou des bijoux. Une victime a récemment perdu 50 000 euros de bijoux. Pour rappel, les forces de l'ordre ne demandent jamais de tels transferts. En Aveyron, le village d'Aspières organise enfin ses élections municipales. N'ayant toujours pas de maire, le village retente sa chance aux élections le 7 juin. Un nouveau scrutin doit permettre d'élire 15 conseillers à condition que des candidats se présentent. Dans le Gers, les élus de la liste L'Avenir de Mirande ont voté le budget 2026 de la commune, axé sur la rénovation de l'église, l'assainissement des eaux et le désendettement qui prendrait environ 6 ans. Dans les Hautes-Pyrénées, l'aéroport de Tarbes-Lourdes offre de nouvelles destinations vers l'Italie et l'Europe, telles que la Grèce, Malte ou l'Albanie, grâce à un accord entre 2 compagnies aériennes. Ce système évite les billets multiples et renforce le tourisme dans le département. Et enfin, en Ariège, un couple de hiboux grand-duc s'est installé près du château de Foix et a donné naissance à 3 oisillons, attirant les photographes venus de toute la France. Désormais, chaque jeudi, le Conservatoire d'espaces naturels organise des sessions d'observation du site.
Merci beaucoup à Ginny Chip, donc de l'école de journalisme de Toulouse, qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Nous allons prendre tout de suite, grâce à Benoît Guillard, la direction d'Ibos à côté de Tarbes, et nous allons nous intéresser aux personnes qui recherchent un emploi et peut-être que la transition écologique peut leur rendre service.
Radio Présence à Millau 106.5. Chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix d'aller à Ibos, à la rencontre d'une association qui s'appelle l'association L'Être et avec donc les animateurs, coordinateurs qui sont à l'origine de cette idée, l'idée étant d'accompagner des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, hein, en situation de recherche d'emploi et en difficulté, et en utilisant la valeur qu'est la transition écologique et tous les travaux qu'elle propose finalement pour le futur. Donc je vais vous présenter ces deux personnes, ou plutôt elles vont se présenter.
Bonjour, alors donc moi je suis Nicolas Flavini. Je suis à présent le co-président de l'association Ecohabilis, donc une association centre de formation qui porte le projet d'école Être. Être pour école de la transition écologique. Et donc on est basé ici à Ibos, sur le tiers-lieu du lien Pyrénées.
Alors, on va continuer à faire circuler le micro. Bonjour.
Bonjour. Je suis Flore Colombon, coordinatrice du projet donc de l'école Être des Hautes-Pyrénées, donc salariée de l'association Ecohabilis depuis octobre 2023, avec le démarrage donc du projet associatif école Être courant septembre 2023.
Alors, cette école Être, de quoi y retourne? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui contribue? Qui participe? Qui fait quoi?
Alors l'idée, c'est de former des jeunes qui sont pas ou peu diplômés, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, de les former à des métiers manuels de la transition écologique. Et l'idée aussi, c'est, alors on a beau s'appeler école, c'est de les amener vers ces métiers, mais sans une approche scolaire, plus une approche de mise en pratique, donc sur des projets, des réalisations qui peuvent être autour du bois et de l'éco-construction. Ça peut être aussi du maraîchage, de la transformation de la laine. Et puis, on a choisi aussi d'élargir les thématiques avec les mobilités, donc réparation de vélos, entre autres. Et en fait, dès que ça a un lien avec un métier manuel qui a une place dans la transition écologique, ben on explore cette possibilité.
D'accord. Donc, ces métiers, ça peut donner lieu à une certification professionnelle, par exemple, pas systématiquement ou systématiquement?
Alors, en fait, l'idée, c'est de permettre aux jeunes qui sont en situation de fragilité dans la mesure où elles sont pas en emploi, elles sont pas en études, et en fait c'est de les amener à reprendre confiance sur une des thématiques dont on a parlé. Elles vont essayer plusieurs choses, sachant que le fil conducteur c'est quand même la thématique autour du bois, charpente, menuiserie avec du bois de réemploi. Et l'idée c'est que le jeune fur et à mesure de son cursus, donc on a deux types de cursus, 2 semaines ou 3 mois, ils prennent confiance et si possible, il ait une envie d'aller approfondir. Donc non, il ne sera pas ni certifié ni diplômé à la fin, il aura une attestation de formation. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'il puisse aller vers une formation un peu plus longue et qu'en fait, il soit pré-équipé. Et qu'il ait confiance pour tenir sur une formation qui va durer peut-être 9 mois, peut-être 2 ans, et qu'il ait le plus de chances de succès possible.
Donc c'est une phase de rétablissement, comme on peut le voir, une phase où on retrouve un petit peu d'estime de soi et un peu de confiance pour repartir sur un chemin professionnel, c'est ça, hein?
Oui, pour compléter un petit peu ce que disait Nicolas, en fait, nous on travaille vraiment en partenariat avec les prescripteurs locaux. Donc on a, en fait, les jeunes arrivent jusqu'à nous via les missions locales ou la PJJ ou l'aide sociale à l'enfance. Et l'idée c'est que vraiment, en fait, il y a un accompagnement du début à la fin. Donc on fait en sorte d'être on est un dispositif qui est avant la qualification. On vient jamais prendre la place, en fait, d'organismes ou de centres de formation qui existent déjà, qui ont des propositions au niveau qualification, en fait, sur le territoire. Mais c'est ouvrir les possibles, en fait, aux jeunes ou à la jeune, et lui montrer, en fait, qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a des projets ultra chouettes, en fait, sur le territoire, et que ça leur permette de rebondir, effectivement, reprendre confiance en eux. Mais nous, là, dans ce qu'on va proposer, on est vraiment sur déjà explorer ses compétences individuelles, reprendre confiance dans le rapport à l'autre aussi, dans le fait de venir tous les jours, d'arriver à l'heure. Et en fait, c'est parfois déjà juste un frein énorme pour certains ou certaines jeunes. Et du coup, c'est le levier qu'on essaie de travailler le plus possible.
D'accord. Donc aujourd'hui, on est au lien. Donc sans doute qu'il n'y a pas de hasard. Si on est sur le tiers-lieu du lien, on avait fait une petite émission à Radio Présence sur le lien et tout le travail qu'ils produisent autour de la transition écologique. Combien de jeunes aujourd'hui sont accueillis?
Nous, on a un maximum de 8 jeunes par formation. Dans tous les cas, on va aller jamais au-dessus. On sait en fait que c'est un moyen en fait d'avoir un accompagnement socio-professionnel dans le cadre des formations de qualité. On va pas non plus aller sur des élèves, enfin 12 élèves par exemple, ça serait trop. D'un point de vue très technique, en fait, par rapport aux machines, l'encadrement, il faut avoir plusieurs yeux, plusieurs bras. Et du coup, c'est aussi important d'avoir voilà, cette jauge minimum à maximum à 8. Et on sait aussi qu'en fait, on est avec des publics qui ont, comme je le disais, des freins à lever. Et du coup, ça passe aussi par beaucoup d'absentéisme. Et du coup, on va aller parfois de 6 à 8 jeunes sur les formations.
Bon, plusieurs métiers sont entrepris, donc du coup, on l'a entendu, hein, le bois, le maraîchage, etc. Donc ça veut dire que vous avez des équipements sur place, vous avez des ateliers.
Oui, on est donc au tiers lieu Le Lien à Ibos depuis septembre 2023. Et dans ce cadre-là, on a une location en fait dans le local où là, on a la totalité des ateliers bois éco-construction qui se réalisent. Par contre, pour tout ce qui est maraîchage biologique ou autre activité, on est soit à l'extérieur chez des maraîchères en majorité, on travaille avec des femmes, plutôt sur le secteur des baronnies ou ailleurs. On a un jardin test au Lien quand même, on expérimente en lien avec les équipes du tiers-lieu. En fait, ça fonctionne sur une semaine, on est 4 jours en école avec les jeunes, 2 jours au local où on fait de l'éco-construction ou de la laine avec une intervenante salariée et 2 jours en extérieur, visite de professionnels ou avec des associations. Sur cette formation-là actuellement, par exemple, on a des journées où on va aller à la Hunte dans les baronnies pour aller vraiment explorer toutes les thématiques de biodiversité, recréer aussi des espaces verts autour du camp de la Hunte, etc. Donc voilà, c'est...
Alors peut-être on va parler un petit peu du modèle économique. Bon, pour accueillir ces jeunes, est-ce qu'eux-mêmes doivent financer leur formation? Il y a des aides de l'État ou des aides de la région peut-être pour la formation? Comment ça fonctionne? Voilà, le modèle économique de votre association.
Alors, donc pour le jeune, les formations sont 100% gratuites. Voire pour certains jeunes, on peut mettre en place des aides à la mobilité pour rendre possible cette formation. Et ensuite, le fait d'avoir reçu le label Être, en fait, les écoles Être, c'est un réseau d'écoles qui sont maintenant un peu partout en France et qui, en Occitanie, bénéficient d'une convention de financement. Donc, on est financé en partie par la région Occitanie, en partie par les fonds de solidarité européens. En fait, c'est la région qui fait appel à l'Europe pour arriver à un financement de l'ordre de 70% de notre école. Donc, on doit trouver d'autres leviers de financement. Donc, il y a plusieurs axes de travail. Il y a des appels à projets. Ça peut être des appels à des fondations d'entreprises. Donc on met au travail ces différentes possibilités. Et enfin, il peut y avoir de l'autofinancement au travers de réalisations qui sont faites avec les jeunes en formation. Et ensuite, c'est vrai que les thématiques et le projet, le plaidoyer de l'école parlent à beaucoup de gens. Donc il y a des salariés dans l'association au nombre de 5, répartis sur 3, un peu plus de 3 équivalents temps plein. Et il y a aussi des bénévoles. Et c'est un peu la force du projet. C'est que, par exemple, en éco-construction, en menuiserie, il y a un retraité qui a 40 ans d'expérience et une super histoire de vie. Il s'appelle Pedro et il vient à peu près une journée par semaine de façon, encore une fois, bénévole et il apporte énormément aux jeunes. Et de la même façon, on a une architecte qui vient, moi j'ai été pendant un temps salarié et maintenant je participe au projet, alors plus sur la partie montage, structuration, financement. Et donc voilà, le projet est tellement chouette qu'il fait venir pas mal d'énergie. Donc les salariés, c'est incontournable parce que sans salariat, on ne peut pas avoir une action continue avec les jeunes. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place finalement assez récemment. À partir du moment où on a réussi à mettre en place des conventions avec la région et l'Europe, ça a permis de lever aussi un peu de fonds de trésorerie pour pouvoir initier le salariat. Et ce qui est génial, c'est qu'on a gardé aussi un certain nombre de bénévoles Et du coup, on arrive à boucler un semblant de modèle économique. C'est un exercice du quotidien. On reste très très précaire, donc on reste très ouvert à toute possibilité de recevoir des financements. Et aussi des aides de bénévoles. On a aussi assez régulièrement des recherches en personnel salarié. Donc voilà, on reste très ouvert à ces possibilités.
Effectivement, c'est pas facile, hein, inévitablement, mais peut-être que aussi on peut faire appel à nos auditeurs. Vous pouvez peut-être percevoir des dons. C'est possible aussi, ça, des dons?
Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, on peut, si on est intéressé par le projet, on peut adhérer à l'asso. Donc, c'est une adhésion qui est de l'ordre de 20 euros. Et ensuite, oui, on peut faire un don. En fait, on peut adhérer et puis donner un petit peu plus. Ça, c'est tout à fait possible. Et les personnes qui souhaitent avant venir voir peuvent venir voir. On peut échanger avec elles. On va pas faire. Pour l'instant, on n'a pas de campagne de crowdfunding en cours, mais on a plus un appel continu à manifestation d'intérêt. Tous les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir, on peut échanger. S'ils veulent donner, ils peuvent donner, mais on peut donner du temps aussi. C'est pas forcément des euros.
Alors, on va le rappeler pour nos auditeurs, hein. Vous êtes dans l'espace du tiers-lieu Le Lien, donc au bas de la côte de Gers, comme on dit tous ici, hein, sur la route de Pau. Voilà, et donc nos auditeurs peuvent venir vous voir, vous rencontrer, éventuellement acheter des choses. Pas encore, peut-être, hein. Je voyais qu'il y a une belle table de menuiserie devant l'atelier, mais...
En fait, on n'a pas du tout vocation à faire concurrence à des enseignes donc on a rien à vendre. Après, on peut très bien mettre en place un partenariat via une convention avec une collectivité locale, mais c'est pas exactement le projet de l'école que de vendre des biens de consommation.
Donc aujourd'hui, si une famille est devant une situation avec ou un adulte qui est en recherche d'emploi, donc c'est Mission Locale qui vous envoie les candidats potentiels, c'est ça?
Les candidats peuvent très bien nous joindre directement. En fait, souvent la mission locale est un acteur, on va dire assez incontournable dans l'accompagnement des jeunes. Mais on a aussi des jeunes qui sont venus hors mission locale, et on peut aussi travailler avec la mission locale pour qu'ils soient suivis en parallèle par la mission locale. C'est une condition qui n'est pas du tout obligatoire.
D'accord. Oui, il faut quand même qu'ils aient une assise sociale minimum et qu'ils aient quand même une approche et une envie minimum, je suppose.
Oui, puis il y a aussi la question de l'âge. On est sur un public, en tout cas nous, dans le cadre de la convention un peu établie avec la région et dans le cadre aussi du public cible des écoles au niveau national, on est sur du 16-25 ans. Après, on a 80% du public qui a cet âge-là. Voilà, le reste peut être au-delà. Ça dépend aussi d'une situation. S'il y a une personne qui est en RQTH, en situation de reconnaissance de travailleur handicapé, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Mais on est ouvert à toute proposition, à toute rencontre, en fait. Voilà, on est au tiers-lieu Le Lien.
En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous arrêter. Je pense que ça leur donnera un petit peu plus de force si vous venez leur dire un petit coucou. C'est une belle association, c'est un magnifique projet. Je voulais vraiment vous mettre un petit peu sous la lumière de notre radio. Et merci encore de m'avoir reçu. Et bon courage à vous deux.
Merci. Au revoir.
Voilà, merci beaucoup également à Benoît Guillard pour cette chronique, la chronique verte.
La chronique verte, Benoît Guillard.
On continue la musique avec une belle histoire, Michel Fugain sur Présence. Très bon appétit, 12h passées de 18 minutes. Après, nous partons à l'abbaye de Tournai pour découvrir un nouvel ouvrage grâce au frère Martin.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM. Coup de cœur en librairie, frère Martin de l'abbaye bénédictine de Tournai.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour à vous chers auditeurs et chères auditrices.
Merci de nous retrouver pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un livre de Rabier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde. Voilà un titre un peu original, frère Martin. De quoi s'agit-il?
Alors, il s'agit du livre d'un monsieur qui est espagnol, qui est écrivain et journaliste, et qui a été consulté par des hauts personnages de la Curie pour écrire un livre avec le voyage du pape en Mongolie en 2023.
Alors là, on parle bien du pape François voilà. Dont on va commémorer la mort. Là, ça fait un an, hein, il nous a quittés le lundi de Pâques 2025.
C'est pour ça que je trouvais que c'était à la fois un livre où il y a une question qui habite l'auteur, c'est que sa maman lui dit, mais est-ce qu'elle va retrouver son mari après la mort? Donc comme lui a pris beaucoup de distance vis-à-vis de l'Église, il porte cette question tout au long du livre auprès des interlocuteurs qu'il rencontre, et en plus ça nous permet de, un an après, nous replonger dans qui a été le pape François, et puis surtout l'intérêt de découvrir un voyage pontifical de l'intérieur avec quelqu'un qui n'est pas un journaliste de la curie et qui baigne un peu moins, je dirais, dans le milieu et qui...
C'est pas un journaliste religieux, on va dire.
Ah non, du tout. Et il a pris ses distances vis-à-vis de l'Église, quoi. C'est un homme qui est... C'est un écrivain, quoi.
Et c'est ça la pertinence de cet ouvrage, du coup. C'est qu'il nous raconte un peu, il voit les choses, il vit les choses de l'intérieur, mais pas tout à fait de la même manière que quelqu'un qui est déjà habitué et pétri des choses de l'Église depuis toujours.
Voilà. Et il découvre, parce que avant le voyage, il y a une grande partie où il est à Rome, et donc on lui fait découvrir des personnes qui travaillent dans des dicastères, voire des responsables de dicastères, et ils découvrent tout l'appareil de l'information et de la communication du Vatican. Et ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, quoi. En plus, et puis d'avoir le témoignage de quelqu'un qui, voilà, vraiment regarde ça avec un œil peut-être un peu neuf, quoi.
Et qu'est-ce qu'il en pense, justement? Il est touché, il est surpris, il est déçu. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il découvre?
Il pose des questions.
Il est
très curieux, oui. Il pose des questions très pertinentes auxquelles peut-être nous n'aurions pas pensé. Il prend conscience de l'Église universelle et à la fois de l'Église très locale, puisqu'il va découvrir la jeune Église locale de Mongolie où, pendant le voyage, il réussit avec un prêtre qui l'accompagne à rencontrer des prêtres en mission et des religieuses en mission.
Oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même d'accompagner, de suivre le voyage du pape François en Mongolie, là où il y a une communauté chrétienne naissante, des missionnaires, mais c'est encore des petites communautés de mission. Donc ça lui donne un aperçu de l'Église assez fort et unique en son genre, j'allais dire.
Oui, ça nous permet, je pense, d'avoir, vous voyez, un regard sur ce qu'ont vécu les missionnaires il y a des années, quand ils sont allés dans des pays où le christianisme était peu ou pas connu. Et justement, là, ce qui est très surprenant, c'est qu'on entend bien la précaution de ces prêtres, de ces sœurs. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne présente pas la foi comme ça. Ils ont des activités dans l'ordre de la santé, de l'éducation, mais il faut être toujours très discret sur la foi. Et c'est intéressant de vivre avec les gens et, à travers notre vie, témoigner de quelque chose. Et ce n'est pas non plus tout à fait indifférent à ce que nous vivons en France, où, auprès d'une génération qui est de l'âge de Cercas, et qui ont pris des distances vis-à-vis de l'Église, eh bien, comment est-ce que les chrétiens peuvent aujourd'hui, par leur vie, témoigner de quelque chose du Christ qui va toucher et faire poser des questions à ces personnes-là?
Qu'est-ce que les témoignages de ces missionnaires et de ces communautés chrétiennes naissantes en Mongolie vont allumer en lui? Est-ce que ça va le ramener à l'Église?
Ça ne le ramène pas vraiment à l'Église.
Est-ce qu'on peut parler d'une conversion ou...
Son regard change. Je crois qu'il n'ose pas dire conversion, mais il me semble que quelque chose s'est passé. Il ne le dit pas tout à fait.
Ça ne le laisse pas indifférent,
oui,
en tous les cas.
Et puis surtout, il est touché par le courage et les conditions dans lesquelles vivent ces gens. Parce qu'en plus, en Mongolie, il y a le climat, quoi. Il y a la langue qui est très difficile à apprendre. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs seraient prêts à partir en Mongolie c'est vraiment plus que le dépaysement, quoi. C'est vraiment des conditions quand même difficiles.
On peut dire en tous les cas qu'il n'en est pas rentré indemne.
Tout à fait.
Est-ce que c'est un livre de témoignage, au fond? Est-ce qu'il parle, de lui, bien sûr, mais ce livre a été fait aussi pour parler du pape François. Est-ce que c'est une sorte d'hommage aussi au Saint-Père défunt? Enfin, comment vous le qualifieriez?
C'est tout ça mêlé avec ce que nous avons dit. Il y a aussi vous verrez dans le livre, il rencontre le pape dans l'avion. Et on ne sait qu'à la fin du livre le contenu de cette discussion. On est plutôt dans un cursus où les événements se passent les uns après les autres, et pof, il y a un blanc, il voit le pape, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, si vraiment il lui a parlé. Il va dans la cabine où il y a le pape, et puis pof, après on passe à autre chose. Et donc il faut attendre la fin du livre pour savoir. Donc je vous laisse lire pour voir ce qui se passe avec le pape François.
Le fou de Dieu au bout du monde, c'est qui le fou de Dieu?
Ah, le fou de Dieu, c'est le pape François, et lui, il se dit le fou sans Dieu. Il le répète souvent dans le livre.
Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du monde, un ouvrage paru aux éditions Actes Sud, 478 pages,
au prix de 24,50 € et bien sûr disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles. Merci beaucoup, frère
Merci
Martin.
Merci à vous.
À la prochaine fois.
Au revoir.
Merci pour ces conseils de lecture et un grand merci à Anne-Rose Jankovic. Dans quelques instants, on parlera d'extractivisme. Je ne sais pas si vous savez, grâce au CCF des Terres Solidaires, avec la chronique solidaire qui nous est proposée chaque semaine par Anne Deslois. Et puis on finira par un auteur qui a écrit dans les Pyrénées grâce à Catherine Albrecht, Hans Christian, dans quelques instants.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Mais celui qui chante merveilleusement les Pyrénées, la montagne en général, c'est Jean Ferrat qu'on écoute.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Jean Ferrat sur Présence, tout de suite le point sur l'actualité, avec Jenny Litschieb de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Bonjour.
La Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie constate un ralentissement généralisé et une baisse de la confiance des chefs d'entreprise liés au conflit au Moyen-Orient. La hausse des coûts de l'énergie inquiète près de 9 entreprises sur 10. Près de 80% craignent aussi une baisse de la demande et des commandes. Ce contexte pousse à geler les recrutements et à reporter les investissements, tandis que les marges atteignent leur plus bas niveau depuis 2 ans. La gendarmerie de Haute-Garonne signale une forte hausse des escroqueries téléphoniques où des malfaiteurs se font passer pour des policiers ou gendarmes. Ils invoquent de fausses enquêtes pour convaincre les seniors de retirer de l'argent ou de déposer leurs bijoux dans un véhicule. Rappel important, la police ne vous demandera jamais d'argent ni de bijoux par téléphone. En Aveyron, à Asprières, un village de 753 habitants organise enfin ses élections municipales. Après l'absence totale de candidats en mars aux élections, aucun élu n'a été désigné et la commune reste sans conseil municipal. Une délégation spéciale de retraités gère la commune en attendant un nouveau vote prévu le 7 juin, à condition que des candidats se présentent. Dans le Gers, à Mirande, les élus de la liste L'Avenir de Mirande avec vous ont présenté et voté le budget municipal. Plusieurs priorités ont été fixées, dont la réparation du toit de l'église Sainte-Marie et de son orgue. L'assainissement des eaux figure également à l'ordre du jour pour un coût estimé à plus de 61 000 euros. Enfin, un plan de désendettement est engagé. Il faudrait 6 ans à la commune pour tout rembourser. Un accord entre la compagnie aérienne espagnole Volotea et la compagnie italienne ITA Airways élargit l'offre de l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Les passagers peuvent désormais rejoindre 13 villes italiennes en une seule réservation. Le réseau s'ouvre aussi à de nouvelles destinations européennes telles que la Grèce, Malte ou l'Albanie. Ce système de correspondance permet d'éviter les billets multiples et vise à renforcer le tourisme dans les Hautes-Pyrénées. Et pour finir, en Ariège, un couple de hiboux grand-duc a établi son nid aux abords du château de Foix. Ils ont donné naissance à 3 oisillons en février dernier. Leur nid étant facilement visible, cet événement rare et exceptionnel en ville attire les photographes animaliers de toute la France depuis 3 mois. Chaque jeudi, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège organise des sessions d'observation du site.
Voilà, on remercie Ginili Tcheb de nous avoir accompagnés cette semaine. Elle est à l'école encore, elle fait des études à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et puis, ben voilà, ils se débrouillent pas trop mal, nos chers étudiants, au niveau de l'information. Et puis le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. C'est Andélois que nous allons retrouver tout de suite. Elle va peut-être nous faire découvrir pour certains ce mot, l'extractivisme, grâce à CCFD Terre Solidaire.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission dédiée à la solidarité et aux grands enjeux de notre monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qu'on entend de plus en plus souvent, l'extractivisme. En fait, c'est un modèle économique au cœur de nombreuses problématiques sociales et environnementales, notamment mis en lumière par le CCFD Terre Solidaire, cette ONG catholique que la plupart de nos auditeurs connaissent bien. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Thiébaud. Bonjour Claude.
Bonjour Anne et bonjour les auditeurs, auditrices.
Voilà Claude, vous venez, là nous sommes dans le studio de Radio Présence Lourdes, mais vous venez du diocèse de Belfort-Montbéliard. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une bénévole très active au sein du CCFD Terre Solidaire, à la fois de votre diocèse, de la région Est ou Franche-Comté, mais aussi ici à Lourdes pour l'espace rencontre. Pour commencer avec vous, puisque je voudrais qu'on parle de l'extractivisme, une question toute simple, qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, c'est un concept à la prononciation rude, extractivisme, et qui est encore peu familier du grand public, mais effectivement qu'on entend de plus en plus. Donc ce terme, cette expression, on le doit à un chercheur uruguayen, Eduardo Godinas, qui l'a défini en 2009 comme l'appropriation de toutes sortes de ressources naturelles en masse pour les exporter en tant que matière première. Et actuellement, la planète est livrée, c'est un constat, à un vrai pillage. Donc lié à cet extractivisme, donc sous une pression productivisme, de consumérisme, sans relâche, on creuse des mines dans des zones jusqu'alors préservées, on fore encore plus profond sous les mers en quête de nouveaux gisements pétroliers. L'extractivisme contemporain, c'est aussi le pillage du bois, des forêts tropicales, l'épuisement des sols pour l'agriculture industrielle, par exemple pour de la monoculture alimentaire, du soja ou d'autres plantes. pour des produits énergétiques, des ressources forestières. C'est aussi la captation de l'eau pour des barrages hydroélectriques, des méga-barrages, le vidage des mers pour la pêche intensive. Donc, quand on dit extractivisme, il y a extraction et isme, ça veut dire à grande échelle et donc avec des impacts qui sont également à grande échelle.
Merci Claude. À travers ce que vous dites, justement, on entend combien c'est une activité économique très importante et mondiale. Il n'y a pas simplement en Afrique ou en Amérique latine, en Europe, on connaît aussi le sujet, bien sûr en Asie. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un véritable système ?
Tout à fait. Dans lequel l'économie mondiale, les pays de tous les continents, y compris par exemple en Suède, où on a des mines, des extractions minières gigantesques dont on parle très peu, et on va avoir prochainement le plus grand déplacement de population lié à cette mine à ciel ouvert qui s'étend indéfiniment et des milliers de personnes vont être déplacées, et ça se passe en Suède.
Alors, quels sont d'autres impacts de ce modèle économique?
Alors bien sûr, il y a le premier impact environnemental. Il y a des cratères que l'on voit depuis depuis la Lune, quand les astronautes partent, ils aperçoivent ces cratères sur la Terre, en particulier au Pérou ou dans d'autres pays, parce que ces cratères peuvent atteindre jusqu'à 250 km de large et 800 mètres de profondeur. Donc ça veut dire que ce territoire, c'est une faune qui a disparu, une végétation qui a disparu, c'est des populations qui ont été déplacées et qui du coup sont déstabilisées dans leur modèle de vie, dans leur modèle économique pour se nourrir, pour vivre, et qui quelquefois aussi sont déstabilisées dans leur culture qu'elles ne peuvent plus pratiquer. Je pense à, par exemple aux pays d'Amérique latine qui ont une spiritualité très liée à la terre, qui parlent de la Pachamama, la terre mère, et donc là ne peuvent plus pratiquer leur culte, leur relation à la terre parce qu'ils l'ont perdue. Donc à la fois ils perdent leur identité, leur culture, donc ça va très très loin ce système.
Et peut-être que certains de nos auditeurs peuvent se rappeler, il y a bien 40, 50 ans qu'on parlait, et même peut-être plus encore, de la déforestation de l'Amazonie. Ça c'est un exemple vraiment que tout le monde peut avoir en tête. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi par rapport à la pollution des sols et de l'eau? Est-ce que c'est dû aussi à une maltraitance de la richesse des terrains, quoi?
Tout à fait. Si on prend par exemple de l'extraction de l'or, ça nécessite déjà une grande masse d'extraction de roches. Par exemple, pour une simple alliance en or, c'est 400 kilos de roches qui est extrait. Donc ensuite, cette roche, pour pouvoir extraire l'or, on y ajoute du cyanure, du mercure. Et on sait ce que c'est que, par exemple, en France, les anciens bâtiments, pollution au mercure, etc. Donc, bien sûr, c'est mis dans des bassins, mais quelquefois, ces bassins peuvent lâcher. Donc, ça veut dire que c'est des eaux boueuses qui partent dans la nature. Mais c'est aussi, même si les bassins sont bien circonscrits, c'est des émanations. Donc, c'est aussi ce qu'on respire. C'est ce que les populations locales respirent. Donc, des atteintes à la santé. On retrouve la tuberculose et d'autres maladies liées aussi au travail de la mine.
Donc on entend là aussi combien les impacts de l'extractivisme sont aussi sociaux, quoi, hein, le déplacement de certaines populations locales, du coup. Qu'est-ce que vous avez peut-être au niveau du CCFD de Terre Solidaire, parce que vous soutenez des partenaires qui luttent ô combien contre l'extractivisme. Est-ce que vous avez quelques paroles de partenaires, quelques exemples à nous donner pour bien qu'on comprenne concrètement la lutte de chaque jour sur le terrain?
Oui, parce que donc face à ces problématiques, eh bien, les populations locales se mobilisent, s'organisent en association, en collectif. Et elles sont vraiment fortes parce qu'elles sont face à des géants, les multinationales, face aux États. Donc effectivement, il est nécessaire de se mettre à plusieurs, de se monter en collectif. Et elles ont un grand pouvoir de dire non. C'est aussi la campagne du CCFD, le pouvoir de dire non aux multinationales. Donc on soutient ces associations qui s'organisent. Donc par exemple en Amazonie, le CCFD a soutenu eh bien, un tour d'Europe de populations autochtones de différents pays qui sont venus en Europe dire ce qu'elle vivait. D'ailleurs, cette initiative est due à un prêtre. Donc, le monde catholique aussi est très investi dans certains pays et soutient avec le CCFD et d'autres collectifs ces associations. Par exemple, je peux vous livrer une parole d'une personne qui vient du Nord-Brésil, qui a pris la parole lors de cette caravane sur l'extractivisme des peuples autochtones. Elle dit, par exemple, à la compagnie brésilienne présente sur notre territoire depuis plusieurs années, se sont ajoutés des investissements canadiens ou australiens sans que nous ayons été consultés sur ces implantations. Elle dit cela vraiment avec colère. Et elle ajoute, l'exploitation non contrôlée des mines nécessite beaucoup d'eau et nous sommes désormais obligés, pour notre propre consommation, de nous faire livrer par camion. Se faire livrer de l'eau. Cette eau qui est utilisée pour extraire les minerais. De plus en plus de personnes rencontrent également des problèmes respiratoires en raison de la pollution. L'impact de l'extraction du lithium pèse aussi sur les forêts et la faune locale. Voici ce qu'elle a crié en Europe lors de cette tournée.
Merci Claude d'être aussi ces porte-parole de tous ces partenaires. En fait, le CCFD Terre Solidaire soutient des actions de développement, des partenariats pour un monde meilleur là-bas, mais aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il a un rôle de sensibilisation au niveau du grand public chez nous ?
Oui, donc cette campagne qui a commencé en 2024 et qui va porter sur 3 ans s'appelle la campagne Abus des multinationales. On devrait tous pouvoir dire non. Donc il s'agit de s'informer, de comprendre ce qui se passe parce que si on ne sait pas, si on ne comprend pas, on ne peut pas agir ni réagir face à tout cela. Donc, par exemple, je parlais de ce qu'il faut pour produire une bague en or, ce qu'il faut pour un téléphone, ce qu'il faut pour un ordinateur, ce qu'il faut aussi pour la transition énergétique, les éoliennes, comment elles sont fabriquées, les panneaux solaires. Chaque fois, il y a besoin de minerais, chaque fois, il y a besoin de tonnes, de tonnes, de tonnes d'eau, alors que le monde s'assèche. Donc, à la fois, il y a ces combats économiques, climatiques, environnementaux, sociaux, qui sont à comprendre pour pouvoir agir. Donc, par exemple, on intervient avec les bénévoles du CCFD dans des écoles, à la radio. On intervient également auprès des élus locaux, nationaux, européens et même internationaux, puisqu'on est présent à l'ONU. Donc on a une parole d'expert avec d'autres collectifs pour justement dire ce qui se passe sur le terrain et faire bouger les lois, parce qu'il faut aussi faire bouger les lois. Il y a ce que chacun peut faire, qui est immensément important. Il y a des changements de comportement à avoir, mais il y a aussi des lois qui doivent changer.
Merci beaucoup Claude pour vos éclairages. On retiendra que l'extractivisme est un modèle profondément ancré, mais qu'il existe des alternatives et des acteurs engagés. Vous en êtes Claude, des acteurs engagés pour un monde plus juste, plus solidaire. Merci, à une prochaine fois.
Un grand merci également à Anne Deslois pour cette chronique solidaire qu'on retrouvera bien entendu la semaine prochaine en compagnie donc Anne et de ses invités. On va parler d'un autre auteur qui a écrit sur les Pyrénées grâce aussi également à la chronique de Catherine Albrecht.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
you hot down there. Couldn't stay very long. Yeah, hey, hey. Isle is the roughest place I've ever been. All the people down there
take me with me, Ali. Lord, it took me right back to the bed.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen est un écrivain danois, auteur de célèbres contes pour enfants. Le vilain petit canard, la petite sirène, la reine des neiges, les habits neufs de l'empereur. Il est né dans une famille pauvre et son père cordonnier meurt lorsqu'il a 11 ans. Il commence à publier ses textes à 17 ans et obtient un premier succès avec Reflet d'un voyage dans le Harz, récit d'un périple en Europe. Par la suite, il écrit d'autres romans, souvent autobiographiques et d'inspiration romantique, mais aussi des poèmes, des pièces de théâtre et des récits de voyage. Entre 1832 et 1842 paraissent en brochure ses premiers contes écrits pour s'amuser. Le succès immédiat l'encourage à poursuivre et à en publier chaque année. Il en écrit ainsi près de 150, traduits en plus de 80 langues, qui connaissent un engouement jamais démenti et sont encore aujourd'hui une source d'inspiration inépuisable pour les écrivains et les artistes dans des domaines aussi variés que le cinéma, la danse, la sculpture ou la peinture. Andersen a fait de nombreux voyages en Europe. Il part pour l'Espagne en juillet 1862, il reste 3 mois et arrive fin décembre au Pays Basque, à Saint-Sébastien, puis à Biarritz et à Bayonne, où il réveillonne sur le chemin de retour vers le Danemark. Nous étions à Saint-Sébastien. La diligence s'arrêta devant une fonda qui, par sa propreté et pour un peu, dirais-je, son élégance, ne pouvait que surprendre. Nous jetâmes les yeux dans les chambres et la cuisine. On fit bouillir le chocolat et le lait dans un récipient bien poli. Toute la cuisine brillait et la jeune fille basque qui gouvernait là s'entendait également à faire rayonner ses yeux. Ils étaient si noirs, si beaux. Ce qu'ils disaient était plus facile à comprendre que la langue basque qu'elle parlait. Saint-Sébastien est situé sur un lieu particulièrement pittoresque, sur une anse du golfe basque. Les rochers alentour montent à pic de l'eau verte et profonde. Nous vîmes la ville au soleil levant qui peignait les nuages en rouge feu. En été, les montagnes sont couvertes de fleurs et de jasmin sauvage. L'air est plein de parfums. C'était un grand changement, une surprise que de trouver là, du côté nord des Pyrénées, un climat bien plus doux que celui dont nous venions. Derrière nous s'étendaient les montagnes couvertes de neige. Ici, en revanche, plus nous avancions vers le nord, plus les prairies et les champs étaient verts. Et lorsque nous atteignîmes Irun, il y avait dans tous les jardins une floraison et parmi le feuillage sombre des orangers, il y avait encore des oranges. Nous étions en France. Le soleil brillait, le printemps était là, et bientôt nous atteignîmes Bayonne, où le jambon fut servi. Un repas divin, nordique. Le feu dans la cheminée était une grande flambée de Noël. Une mèche de cire attachée autour d'une bouteille de champagne fut allumée en guise de lumière de Noël. Le bouchon sauta et l'on porta des toasts au Danemark et à tous les êtres chers qui s'y trouvaient, qui semblait si proche de nous, alors que, pourtant, nous n'étions encore qu'à quelques heures de marche de l'Espagne. Ces montagnes en habits divers brillaient devant nous. Elles recevraient nos adieux à Biarritz. Cette station balnéaire fréquentée se trouvait près de Bayonne, au bord de la mer espagnole. Nous y allâmes. Le soleil était d'une chaleur délicieuse. Les arbres bourgeonnaient, c'était comme le printemps. La mer infinie s'étendait calme. Et cependant, vers la côte, de longues vagues déferlaient de sa surface lisse. Elles arrivaient comme un troupeau de baleines en train de souffler, déferlaient longuement sur le sable, y formant toutes sortes de nappes d'eau, comme s'il s'agissait de toute une garniture de dentelles. La mer a emporté de grosses bouchées de la côte rocheuse, poreuse et à pic, formant de grandes grottes dans lesquelles on entendait des pulsations comme le bruit de canons. Chaotiques, jetés en désordre les uns sur les autres, il y a, le long de la côte, au large, dans la mer, des blocs de rochers fracassés, comme de gros monstres marins étranges, comme des bêtes pétrifiées venant du monde préhistorique, ou comme si c'était des épaves de bateaux coulés. Les brisants rejaillissent à des toises de haut, tandis que la vaste mer, plus loin au large, a l'air d'une surface calme. Que le vent se lève, que le golfe basque élève ses vagues, c'est un océan qui déferle alors vers la côte. En comparaison, le Niagara est un ruisseau de moulins. Là, de la hauteur, nous vîmes pour la dernière fois les Pyrénées, les splendides montagnes de l'Espagne. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Hans Christian Andersen. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Dans la Haute-Ariège, 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu au Liban après des discussions hier à la maison.